Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh, oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, vous le savez, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, je reçois Jean-Baptiste Fressoz. Bonjour Jean-Baptiste Fressoz. Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Jean-Baptiste Fressoz, vous êtes chercheur au CNRS, historien des sciences, des techniques et de l'environnement, c'est bien ça. Vous êtes aussi un des auteurs du formidable film diffusé sur Arte, qui porte sur l'Anthropocène et qui s'appelle « L'homme a mangé la terre », film disponible encore et jusqu'à la fin septembre en replay sur Arte plus 7. Et vous avez choisi Jean-Baptiste Fressoz comme journée particulière le 26 mai 2004. Ce jour-là, le film Catastrophe, le jour d'après, sortait sur nos écrans.
Qui est à l'appareil ?
Terry Robson. Pardon de vous appeler si tôt.
Non, professeur, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a ?
Eh bien, nous avons fait une découverte extraordinaire. Oui, extraordinaire et inquiétante, à vrai dire. Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le courant Atlantique Nord ?
Oui.
Eh bien, je crois que c'est ce qui se passe.
Quoi ? Comment ça ?
Une de nos bouées météo a enregistré une chute de 13 degrés de la température en surface l'autre jour. Je vous ai envoyé un email.
Attendez.
On a d'abord pensé à un dysfonctionnement, mais 4 autres bouées réparties dans l'Atlantique Nord indiquent la même chose.
C'est incroyable.
Vous aviez prédit tous ces événements.
Oui, mais pas à l'échelle d'une vie d'homme, c'est trop rapide.
Personne ne dispose de modèles météo, de près ou de loin, capables d'étudier ce genre de scénario, si ce n'est vous.
Mon modèle est la reproduction d'un changement climatique à la préhistoire. C'est pas un modèle météo.
C'est ce que nous avons de plus proche.
Rien de tout cela ne s'est encore jamais produit dans l'histoire. En tout cas, pas dans les 10 derniers millénaires.
Jean-Baptiste Fressoz, c'est un extrait du jour d'après. Je vois que vous souriez. Vous savez que ça, le jour d'après est classé dans le top des meilleurs films catastrophes.
D'accord.
Vous ne le saviez pas.
Alors, je ne le savais pas, sans doute pas le top de mes meilleurs films, mais c'est un film qui a eu un intérêt scientifique pour moi.
Oui. Alors, il est question de quoi dans ce film Jean-Baptiste Fressoz.
Alors, comme l'explique l'extrait, refroidissement hyper brutal, soudain, du climat causé par le réchauffement climatique qui perturbe la circulation de la thermohaline, enfin bref, du Gulf Stream, on va dire, pour faire simple.
Les courants.
Qui fait qu'il se met à faire hyper froid.
Et que le nord des États-Unis est paralysé.
Du nord,
voilà. Voilà, c'est ça. Qui rentre dans une nouvelle période glaciaire.
Si je me souviens bien, il y a un papa qui doit sauver ses enfants de ce froid terrible qui s'abat sur le nord des États-Unis.
Et il y arrive.
Il y arrive sans doute.
Il y arrive.
Bon, ça va alors. Vous venez de tuer la fin du film, mais bon. Et donc, ce film, il m'avait intéressé. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé après que j'ai vu ce film qui est pas extraordinaire, mais qui est intéressant à plein de points de vue. C'est que je me suis tout simplement intéressé. C'est quoi la vision de la fin du monde dans le passé, en particulier au 19e siècle. Je travaillais à cette époque en thèse et je travaillais sur la question des risques environnementaux, des risques technologiques dans l'histoire au 18e, 19e siècle. Et j'ai simplement rentré dans le moteur de recherche de la BNF, de la Biotech Nationale. Il y a un grand moteur de recherche qui permet de chercher les livres par titre, par sujet, par auteur, etc. Et simplement en mettant dans les mots du titre la fin du monde. Alors il y a tout plein de fins du monde, plus ou moins connues. Et puis il y en a une qui était complètement inconnue, qui s'appelle La fin du monde par la science, qui est un livre qui était complètement tombé dans l'oubli avant que je tombe dessus, hein, qui avait été publié en 1855 par un une sorte de philosophe qui s'intéresse en tout cas aux sciences et aux techniques. Et ce livre, La fin du monde par la science, en creusant, je me suis rendu compte, en le lisant déjà, j'étais extrêmement surpris parce qu'on y trouve tout plein de choses qui à première vue peuvent sembler prémonitoires, dans le sens où il va parler de changements climatiques anthropiques, enfin causés par l'homme, il va parler de catastrophes technologiques, il parle des risques du vaccin, il parle...
C'est un livre critique. C'est un livre qui critique le progrès.
C'est un livre, c'est bizarre, parce que c'est un livre qui est très progressiste dans le sens où il explique que les sciences et les techniques sont en train de complètement bouleverser le monde, et il exagère largement la puissance des sciences et des techniques, à vrai dire. Et en même temps, il explique que maintenant, le principal danger face auquel l'humanité, il a une vision très englobante des choses, est confronté, c'est la maîtrise du progrès technique.
Et ça, au cœur de la révolution industrielle, voilà. Hein, Jean-Baptiste.
On est en 1855. Il écrit ça en pleine exposition universelle à Paris. Et son but, c'est vraiment de provoquer. Et ça marche très bien. C'est ça qui m'avait aussi surpris après, en creusant un peu autour de ce livre et du personnage, c'est que si le livre est complètement tombé dans l'oubli, à son époque, ça a été un énorme succès. Il est publié, je ne sais plus combien de fois, mais plus de 5 ou 6 fois en quelques années. Il va faire une suite. En 1857, il écrit une suite qui s'appelle « L'arbre de la science ». Ça va être traduit en différentes langues. Toute la presse en fait des comptes rendus hyper élogieux.
Enfin, c'était un peu provocateur. C'était aussi un livre provocateur pour l'époque qui allait à l'encontre.
Qui allait sans doute à l'encontre du discours grandiloquent, impérial, sur les progrès techniques, la modernisation, l'enrichissement, etc. C'est certain. Mais qui en même temps, et c'est aussi pour ça que c'était intéressant, je dirais plus historiquement et scientifiquement, c'était en fait que Jeanne Husser était une excellente caisse de résonance de tous les débats qui avaient cours en son temps. Dans le sens, il n'était pas du tout précurseur. En fait, quand il parlait de changement climatique, c'est parce qu'au 19e siècle, on parle énormément de changement climatique. Quand il parle de vaccination, c'est parce que la vaccination, bah oui, c'est un énorme sujet de débat à cette époque, on ne sait pas si c'est dangereux, etc. Déjà, voilà. Donc Eugène Husser, en gros, c'est un peu servi de confirmation à une hypothèse de départ qui était de dire « Arrêtons de raconter le moment contemporain comme une sorte de grande révélation. Arrêtons de sortir justement de dire « Ah tiens, c'est fou, déjà on s'y intéressait. » Bah, bien sûr qu'on s'y intéressait.
C'est-à-dire que pour vous, ça a conforté votre intuition comme quoi le 19e siècle ne s'était pas passé dans la plus grande des insouciances et que la révolution industrielle ne s'était pas faite dans un brouillard d'inconscience. Exactement. C'est ça qui s'est passé pour vous en découvrant ce livre.
En gros, pour donner un peu plus de contexte, La sociologie à l'époque, elle avait été très influencée par un livre d'Ulrich Beck qui s'appelle « La société du risque » et qui expliquait que depuis 30 ou 40 ans, on avait vécu une énorme transformation. On était passé d'une sorte de modernisation hyper joyeuse, progressiste, industrielle, à une modernisation beaucoup plus inquiète, réflexive, c'est le terme technique qu'il emploie, en tout cas soucieuse d'environnement et de risque. Et en fait, à travers des archives pléthoriques, et puis Eugène Husser, c'est une sorte de cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, on se rend bien compte que ce récit-là d'une sorte de modernisation qui serait faite de manière complètement inconsciente, et puis depuis peu, on se rend compte des dangers du progrès. C'est une fable, en fait.
C'est une fable, c'est faux.
C'est faux.
Et c'est là-dessus que vous allez commencer à travailler et à creuser, et creuser, et creuser. En 2004, Jean-Baptiste Fressot, sur France Inter, on écoutait cette douce musique-là. Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh, oh, oh. Unpacking the bags and setting up and planting lilacs and buttercups. Oh, 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 but in the meantime I got it hard, second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay. Many
tip my cap on a little rug barely on the mat.
Feist, Jean-Baptiste Fressoz, vous connaissiez ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. En 2004, c'est pas ce que vous écoutiez ?
Non.
Non, c'est pas grave, hein ? On continue quand même. Le 26 mai 2004, c'est la journée particulière du chercheur Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences et techniques et de l'environnement. Ce jour-là, vous regardiez Le jour d'après, film catastrophe américain qui raconte comment le dérèglement climatique a plongé le nord des États-Unis dans une nouvelle période glaciaire. Et voilà ce que déclare dans ce film, de fiction donc, le président des États-Unis.
Après les semaines qui viennent de s'écouler, nous ressentons tous un profond sentiment d'humilité devant la puissance destructrice de la nature. Pendant des années, nous avons pensé que nous pourrions sans vergogne continuer à exploiter notre planète et ses ressources naturelles, sans en subir les conséquences. Nous avions tort. J'avais tort. Le fait que ma première allocution se fasse depuis un consulat sur un sol étranger témoigne d'une réalité qui est désormais tout autre. Les Américains, mais aussi de nombreux peuples, sont aujourd'hui les hôtes de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. Nous étions dans le besoin, ils nous ont laissé entrer chez eux, ils nous ont accueillis. Je leur exprime toute ma gratitude pour leur hospitalité.
Jean-Baptiste Fressoz, alors, ce faux président dit « Pendant des années, nous avons pensé que nous pourrions sans vergogne exploiter notre planète sans en subir les conséquences. » Et c'est ça justement qui est une fable et c'est ce discours-là que vous cherchez à déconstruire.
Mmh, c'est exactement ça.
Alors, « La fin du monde par les sciences », ce livre que vous trouvez par hasard à la BNF de Jeanne Husard, en est une preuve. Mmh. C'est-à-dire qu'au beau milieu de la révolution industrielle, c'est un homme qui critique et qui s'inquiète. Mmh. Sur quoi portent ces inquiétudes ?
Alors, par exemple, dans Eugène Husard, il y a cette idée que la Terre est un être vivant, très fragile, qu'on pourrait tuer par inadvertance. Il y a cette idée que finalement, l'humanité est devenue très très puissante, très très grande à cause de la science et la technique, et que la Terre, elle, elle est toute petite, elle est fragile. Ce genre d'inquiétude, ça semblerait vraiment le summum de la modernité. En fait, c'est une idée hyper ancienne.
C'est-à-dire qu'on pensait la Terre avec ça, comme un corps, avec ses veines, ses vaisseaux, ses tremblements.
Effectivement, à la Renaissance, il y a cette idée d'une Terre organique, d'une Terre-mère, en fait. Et il y a Caroline Merchant, une historienne qui a écrit un très beau livre là-dessus, et elle explique par exemple que les mineurs au XVIe siècle en Allemagne, avant d'ouvrir une nouvelle veine dans une mine, faisaient des actions propitiatoires, des sortes de prières, pour demander en quelque sorte l'autorisation à la Terre-mère d'aller en fait pénétrer dans son corps. Il y avait tout un tas de métaphores sexuées sur le rapport entre le mineur et la Terre. Bon. Alors ça, c'est la vision organique de la Renaissance. L'histoire traditionnelle, c'est de dire au moment de la révolution scientifique, au XVIIe siècle, on a une vision mécaniste de la nature qui s'impose, où on pense la Terre, la nature, comme une sorte de machine qu'on peut démonter, remonter, travailler, maîtriser pour le plus grand bien de l'humanité. En fait, c'est beaucoup trop simple, cette histoire. C'est pas du tout ça qui se passe.
Non.
Au XVIIe, XVIIIe siècle, on continue à penser la Terre comme un système, parce que on est dans un cadre de pensée qui est hyper dominant à l'époque, qui, alors désolé, c'est un peu technique, ce qu'on appelle la théologie naturelle, c'est-à-dire en fait, c'est le créationnisme, si vous voulez. C'est l'idée que la Terre, c'est une création d'un être infiniment supérieur, et la nature aussi tout entière, qui a parfaitement organisé le système.
Et donc l'homme désorganise le système.
Et l'homme, par son action, désorganise le système. Et il y a un aspect de désorganisation qui est important à cette époque, c'est la déforestation. Le fait de couper du bois, et on coupe beaucoup de bois au XVIIIe siècle pour l'industrie, pensez aussi à l'Amérique du Nord, où on déforeste massivement à cette époque, il y a cette idée que la déforestation pourrait causer un effondrement environnemental, et par conséquent social, économique et tout le reste, causé par l'homme, qui ne gère pas bien son territoire. Et ça, c'est un truc qui devient hyper important à la fin du 8e siècle et qui court tout au long du 19e siècle. Et Eugène Huszár, quand il parle de changement climatique, au début, on peut penser « Ah, c'est vachement précurseur ». En fait, non, c'est extrêmement banal ce qu'il dit à cette époque. Tout simplement parce que en 1855-56, il y a tout plein d'inondations en France et on parle constamment de changement climatique dans la presse française à cette époque.
Alors, dans votre livre, l'événement anthropocène, vous citez par exemple Alfred de Musset, qui en 1833 écrivait un poème où il exprimait sans équivoque ses inquiétudes. Je vous cite, Alfred de Musset. « Votre monde est superbe et votre homme est parfait. Les monts sont nivelés, les plaines, la plaine est éclaircie. Vous avez sagement taillé l'arbre de la vie. Tout est bien balayé sur vos chemins de fer. Tout est grand, tout est beau, mais on meurt dans votre air. » 1833. Ouais. Je continue, à la fin du 19e siècle, Jules Verne publiait une nouvelle qui parlait de la fin du monde et de notre civilisation qui s'appelait « L'éternel Adam ».
Que se passe-t-il? Que crient tous ces gens? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Où sommes-nous, monsieur Jules Verne?
Nous sommes parmi nos descendants, après 1000 générations. Sur une terre qui n'est plus notre terre, à la suite d'innombrables cataclysmes.
Pour vous mettre dans l'ambiance, nous aurions pu commencer, le sujet le permettait, par un fracas épouvantable, un bruit de fin du monde, comme si le globe terrestre s'ouvrait en 2, en 10, en 1000. La radio est capable de tout. Tenez. Mais non. Nous avons d'autres moyens de vous faire frémir. Ce que vous allez entendre ne quittera jamais le ton de la science, de la prémonition. Ce que vous allez entendre est surhumain, astral, cosmique. Et c'est peut-être, c'est sans doute la vérité sur l'homme, la tragicomédie de l'homme face à la planète que nous habitons tous temporairement.
C'était l'extrait d'une fiction qu'on a faite à partir de du texte de Jules Verne, L'éternel Adam, donc qui est une nouvelle catastrophiste.
Alors, ce qui est intéressant dans L'éternel Adam, c'est qu'il raconte la découverte, dans un futur très éloigné, de la fin de notre propre civilisation. Ça, c'est un procédé de la science-fiction qu'on appelle le futur au carré. Donc, on prévoit un futur très éloigné qui décrit la redécouverte de notre propre futur apocalyptique. Et en fait, ce que j'ai montré, c'est que ce procédé-là, il est inventé par Eugène Huszár. Après Eugène Huszár, il y a tout plein de petites nouvelles qui décrivent la même chose, le futur des ruines de notre civilisation, de Paris, de Londres, qui ont disparu dans des catastrophes épouvantables, souvent par des anciens colonisés. Par des Néo-Zélandais, des Africains qui vont découvrir les vestiges de ces grandes métropoles autrefois glorieuses, etc.
Les ruines.
La poétique des ruines, c'était assez ancien, évidemment, et Huszár recycle ça en y injectant le catastrophisme technologique. Et dans L'éternel Adam, il y a vraiment des références assez claires à Eugène Huszár. Donc, c'était pour expliquer aussi à quel point Eugène Huszár a eu une postérité littéraire importante. Et ce processus-là, on le retrouve chez Barjavel, chez Pierre Boulle, La planète des singes, et dans 80% des scénarios hollywoodiens de nos jours, quoi.
Ouais, sur, c'est ça.
Dans les apocalypses, etc. Il y a vraiment, c'est quelque chose d'assez courant maintenant, ce procédé du futur au carré dans la science-fiction. L'énorme vague apocalyptique dans le cinéma et l'héritière lointaine de cet obscur auteur complètement oublié qui s'appelle Eugène Huszár. Alors, la vague apocalyptique hollywoodienne est aussi liée à deux phénomènes importants. La gravité de la crise environnementale contemporaine, il faut quand même évidemment souligner cela. Et puis, le fait que les effets 3D, ça coûte plus rien, ça coûte de moins en moins cher.
Oui,
donc,
d'accord.
On peut s'amuser à détruire le monde assez facilement.
Mais alors après, dans la littérature, des pensées critiques, des essais critiques sur notre société, sur la consommation, sur cette société du risque. Il y a eu les années 60 pour le 20e siècle, les années 70, mais déjà avant, même avant la Seconde Guerre mondiale, il y a un de nos grands poètes qui nous a donné peut-être l'idée, qui nous disait de ralentir.
La ralentir. Ralentir, on tâte le pouls des choses, on y ronfle, on a tout le temps. Tranquillement, toute la vie. on gobe les sons, on les gobe tranquillement toute la vie. On vit dans son soulier, on y fait le ménage. On n'a plus besoin de se serrer, on a tout le temps. On déguste, on rit dans son poing. On ne croit plus qu'on sait, on n'a plus besoin de compter. On est heureuse en buvant, on est heureuse en ne buvant pas. On fait la perle, on est, on a le temps, on est la ralentie.
Jean-Baptiste Fressoz, vous connaissiez cette interprétation de La Ralentie de Henri Michaux. C'est Germaine Montero qu'on vient d'écouter. C'est formidable. Mm-hmm. Et c'est vous qui le citez. Mm-hmm. Donc ça date de 1938, mm-hmm. Si je ne me trompe. Donc on nous disait de ralentir déjà. Mm-hmm. Tout le monde s'inquiétait. Pourquoi on n'a rien entendu, Jean-Baptiste Fressoz? Pourquoi on n'a pas entendu tout ça?
Je dirais que c'est pas qu'on n'a pas entendu. On l'a entendu, mais on s'est rassuré. On s'est désinhibé en quelque sorte. C'est-à-dire, par exemple, sur le changement climatique au moment, au fin 18e, 19e siècle, il y avait tout plein d'inquiétudes. Et puis, on va créer des nouveaux savoirs. Par exemple, je sais pas moi, la météorologie statistique qui va concentrer énormément de données. Ça va montrer, au contraire, que le climat est relativement stable. Et donc, on va créer
des outils de la maîtrise.
Des outils de maîtrise aussi. Par exemple, la question du changement climatique qui est fait évidemment beaucoup plus dramatique au XVIIIe siècle, quand on est dans des sociétés agraires, où 90% du PNB dépend de l'agriculture, et le moment de la soudure, c'est un moment à chaque fois politique difficile, parce que le pain commence à coûter plus cher, il y a des émeutes sur les marchés, etc. Et pour les gouvernements, c'est très tendu. Ce genre de problème va avoir une tendance à s'affaiblir, surtout après la seconde moitié du 19e siècle en Europe de l'Ouest, grâce au train principalement, grâce à la maîtrise technique de la nature. Grâce au train, on peut transporter les céréales dans les régions où il y a un manque. Il y aura toujours un endroit, puis avec la globalisation économique, à la fin du 19e siècle, il y a toujours un endroit sur la planète où les récoltes ont été abondantes, et donc les pays riches peuvent s'approvisionner. Donc tous ces phénomènes font qu'on va se tranquilliser. Et ça vaut aussi pour toutes les techniques de la révolution industrielle, la vapeur, le gaz d'éclairage, le chemin de fer, etc., qui sont pensées comme très dangereuses, le gouvernement va dire, surtout en France d'ailleurs, va dire « je vais mettre des normes de sécurité ».
Et ça va nous tranquilliser.
Et ça permet de pacifier les conflits en disant « mais vous inquiétez pas, si l'entrepreneur respecte bien ses normes, il n'y aura pas de danger possible ». Donc c'est ce genre de dispositif que j'ai étudié après dans ce livre « L'Apocalypse joyeuse », où je montre comment on s'est désinhibé au cours du 19e siècle pour rendre possible l'agir technique.
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûlé?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique,
ouais,
suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais
la,
alors...
La la.
Mais...
La 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 la.
La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Qu'est-ce que tu voulais? La 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 la.
Non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. C'est
incendie.
Normal.
Ouais.
Ouais. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la.
Oui,
c'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La...
D'accord.
La 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 la. Quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc. On va pas mourir dans une minute.
Brigitte? Tu es fatigante.
Pardon.
Non, ouais. On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tire.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
Ouais.
Vous comprenez? Jean-Baptiste Fresseau, c'est normal, Fontaine et Areski en 1973.
Ah oui, c'est génial.
Ça résonne drôlement avec ce que vous venez de dire.
Alors, il y aurait plein de choses à dire, mais alors déjà, c'est une magnifique métaphore, je trouve, du changement climatique actuel, avec des experts qui continuent à nous expliquer plein de choses, et puis on continue exactement comme avant. Donc ça, je trouve que c'est une très belle chanson pour le moment contemporain. Et puis ça parle du gaz, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'ai commencé mes recherches en travaillant sur le gaz d'éclairage, qui est l'exemple parfait du fait que parfois on choisit des technologies débiles et que la technologie absurde, dangereuse, hyper consommatrice de charbon, de polluants, etc. s'impose, alors qu'il y avait tout plein d'autres bonnes technologies possibles pour s'éclairer au 19e siècle. Donc je trouvais que le gaz d'éclairage, qui était critiqué en disant bah, on gâche du charbon qui est une matière non renouvelable, alors qu'on peut s'éclairer avec de l'huile de colza, avec de l'huile de palme, avec plein d'autres sortes de matériaux combustibles. Et puis, assez peu de temps après, arrive le pétrole, les lampes à pétrole, qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus économes. Et pour autant, le gaz d'éclairage s'imposait. Donc ça, je trouve que c'est un exemple intéressant parce que on voit bien qu'à chaque moment, en fait, il y a tout plein de choix technologiques possibles. Il y a un buissonnement de choix technologiques possibles et des fois, c'est le mauvais choix technologique qui est pris pour des raisons financières, économiques, etc. Mais qui, en termes techniques d'ingénieur simplement, et puis en termes environnementaux encore plus, ne fait pas du tout sens.
Et c'est pour ça, Jean-Baptiste Fresseau, que vous avez voulu travailler à une histoire de l'Anthropocène pour comprendre justement pourquoi on avait fait ces choix, pourquoi on avait fait la sourde oreille. C'est ça qui vous a intéressé.
De l'espace, notre terre est blanche et bleue, des continents et des mers. En bas, un paradis. La douceur de l'air, l'odeur de l'iode et la fraîcheur de l'eau. Là, entre 0 et 15 km au-dessus du niveau de la mer, tout autour du globe, il y a ces 1400 milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Le CO2 que nous avons émis depuis le début de l'industrialisation. Des milliards de tonnes prisonnières de la basse atmosphère. La communauté scientifique mondiale multiplie les alertes depuis 40 ans. L'impact de l'homme sur la nature est tel que nous serions entrés dans une nouvelle époque de l'histoire de la Terre. une nouvelle époque géologique. L'Anthropocène, c'est-à-dire l'âge de l'homme. En clair, ce que nous vivons aujourd'hui ne serait pas une simple crise environnementale, mais une révolution géologique d'origine humaine. Alors, quels sont les événements historiques marquants, les découvertes scientifiques et techniques, les choix politiques et industriels qui sont à l'origine d'un tel bouleversement? Comment avons-nous avancé dans l'histoire pour en arriver là?
Et voilà, ça c'est la question. C'était un extrait du film « L'homme a mangé la terre » dont vous êtes un des auteurs, Jean-Baptiste Fressoz, et qui s'inspire de votre livre « L'événement anthropocène », un livre dont on a beaucoup parlé et que vous avez coécrit avec Christophe Bonneuil. Mais alors Jean-Baptiste Fressoz, pour faire votre histoire de l'anthropocène, vous avez voulu faire aussi une histoire de l'énergie. Oui. Et vous avez commencé à nous en parler avec le gaz, qui était un très bon exemple. C'était un mauvais choix. Et on a quand même continué dans cette voie-là. Et en fait, quand on regarde l'histoire de l'énergie, on n'a pas arrêté de faire des choix de ce type-là, qui étaient des mauvais choix, des aberrations. Et par exemple, ça a été le cas pour l'électricité. On a donné la primauté à l'électricité alors qu'on avait des énergies renouvelables à disposition, et on ne le sait pas, dans les années 50 par exemple, 80% des maisons en Floride fonctionnaient à l'énergie solaire.
Alors, des chauffe-eau solaires, effectivement.
Aux chauffe-eau solaires. Et on fait quand même le choix à un moment...
Du tout électrique, surtout.
Du tout électrique. Ouais. On fait ce choix alors qu'on sait que c'est une aberration.
Ouais. Alors en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment fait ce choix. Ce choix s'impose en fait par des logiques. En gros, ce qui s'est passé, c'est dans les années 50, les grandes firmes General Electric, Insel, qui produisent de l'électricité, veulent s'assurer des gros marchés. Donc on a un moment aussi de périurbanisation. Autre choix technologique et énergétique absolument désastreux.
C'est-à-dire développement
des banlieues sans fin pour loger à bas coût les classes populaires américaines. Et les grandes firmes, donc les grands producteurs d'électricité, font une sorte de pression auprès des promoteurs en disant « si vous proposez d'autres modes de chauffage, dans ce cas-là, on vous fait payer beaucoup plus cher le raccordement au réseau électrique ». Et donc va s'imposer par exemple le chauffage électrique, qui pour des raisons complexes, et en fait on sait que thermodynamiquement, en termes de gestion de l'énergie, c'est pas bon du tout. On fait des mauvais choix technologiques pour des raisons économiques et financières de groupes assez particuliers.
Mais aussi pour des raisons politiques.
Alors pour des raisons politiques, ça c'est si on prend la big picture, si on regarde plus largement, la périurbanisation aux États-Unis a été encouragée depuis en fait les années 1920 par les gouvernements, en particulier les gouvernements conservateurs américains des années 1920, comme solution à la question sociale. Il y avait cette perception très claire, et c'est Herbert Hoover qui le dit, si vous êtes propriétaire d'une maison en banlieue, vous n'avez pas les mêmes affects politiques que si vous êtes locataire en ville. Vous serez pas socialiste, en gros. Là, il y a une immense peur aux États-Unis
du communisme,
évidemment. Et la maison de banlieue avec la voiture est encouragée comme moyen de discipline sociale. Les deux vont ensemble, évidemment. Maison de banlieue et voiture vont ensemble. La voiture, ça a été la source la plus importante de crédit à la consommation. L'invention du crédit à la consommation de masse, si vous voulez, c'est lié à la voiture. Et c'était un moment où il y avait un gros problème de turnover dans les usines, c'est-à-dire les ouvriers qui gagnaient bien leur vie, mécaniciens, pouvaient assez facilement trouver un employeur, et donc souvent, ils venaient pas forcément le lundi matin, etc. Et donc, la voiture, une fois qu'on achète sa voiture avec un crédit à la consommation, chaque semaine, il faut payer ses traites, et on est obligé de faire ses semaines bien remplies, etc. Donc ça a vraiment été un outil de discipline sociale fondamental.
Où qu'on regardât, on voyait des Model T. Ils faisaient partie du paysage américain. C'est dans un Model T que les ménagères allaient au marché. Et c'est dans un Model T que le médecin arrivait chez les malades à temps pour les sauver. L'automobile permettait de gagner du temps et de développer le commerce. Des milliers de postes à essence poussèrent comme des champignons. Une industrie entièrement nouvelle, celle du pétrole, fut créée. Et non seulement le citoyen moyen gagnait-il du temps, mais il disposait d'un merveilleux nouveau moyen de passer ses heures de loisir. Toute la famille pouvait maintenant échapper aux bruits et à la chaleur de la ville. Il était possible d'aller faire du camping pendant le week-end et de rentrer travailler lundi avec des forces nouvelles.
d'un reportage qui date de 1954 hein, sur la Ford T, qui est considérée comme la première voiture accessible au plus grand nombre, celle qui a mis l'Amérique sur les routes. Et on voit comme ça ces jeunes familles américaines partir en week-end pour avoir de la force pour revenir au travail et supporter ces conditions de travail. Le choix du pétrole aussi, c'est un choix intéressant par rapport aux luttes sociales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos recherches là-dessus, Jean-Baptiste Fressoz?
Alors, c'est plutôt des recherches d'un collègue anglais qui s'appelle Tim Mitchell, qui explique que finalement le pétrole a servi à contourner les syndicats ouvriers qui étaient très bien organisés dans les mines, en particulier à la fin du 19e siècle. Il y a des syndicalisme de masse qui se crée dans les mines de charbon, et les mineurs, et puis toute la chaîne logistique, tous ceux qui font tourner la chaîne logistique du charbon, qui est très intensive en main-d'œuvre, s'ils arrêtent de travailler, c'est la hantise de la grève générale, c'est toute l'économie qui s'arrête parce qu'ils tiennent dans leurs mains l'approvisionnement énergétique de l'économie. Ça, c'est vraiment à la fin du 19e, début 20e siècle que ce pouvoir-là s'impose. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il y a aussi des grandes avancées sociales. Pensez, je ne sais pas moi, au suffrage universel masculin pour le moment, mais pensez aussi aux lois d'assurance sociale. Enfin, il y a tout plein d'avancées sociales à la fin du 19e siècle, à la réduction du temps de travail, etc. Et le pétrole est réinterprété par plusieurs historiens maintenant comme un moyen de contourner ces réseaux techniques tenus par les ouvriers en quelque sorte.
Le pétrole, c'est aussi la voiture individuelle, on y revient, la destruction des transports collectifs dans ce documentaire que vous avez co-écrit. Vous expliquez comment on a sciemment, on a décidé de détruire les transports collectifs pour donner la primauté, pour des raisons économiques hein. À la voiture individuelle. On voit des images comme ça, de tramway à San Francisco, empilés les uns sur les autres, cette image est folle.
Faut rendre hommage à Jean-Robert Vialet, qui est le réalisateur du documentaire, qui a trouvé effectivement des archives vidéo incroyables sur les tramways, la destruction des tramways, en fait, aux États-Unis. En gros, les tramways qui étaient un transport de masse aux États-Unis au début du XXe siècle. Et les tramways vont être achetés en 1935 par trois entreprises, General Motors, Firestone et Standard Oil. Donc la voiture, le pneu et l'essence. Et évidemment, le cœur de leur business model, c'est pas de faire tourner du transport collectif électrique. Et donc, ils vont s'employer finalement à supprimer les lignes de tramway ou bien ne pas les entretenir, les remplacer par des bus à pétrole, etc. Donc effectivement, là, on a un bon exemple d'un choix technologique qui était plutôt vertueux, le tramway, vers un choix technologique qui était perçu, donc la mobilité individuelle en voiture, qui était perçu déjà à l'époque comme une aberration en ville. Il faut savoir que on peut imaginer qu'il y a une histoire d'amour entre l'automobile et les Américains. C'est un peu ce que reflète l'archive que vous avez présentée. Et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, dans les années 1920, quand la voiture commence à se généraliser en ville, il y a une levée de boucliers contre les voitures. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent écrasés sur les routes parce qu'ils avaient l'habitude de jouer tout simplement sur les voies. Et par exemple, il y a des manifestations contre l'écraseuse aux États-Unis qui regroupe des dizaines de milliers de personnes.
L'écraseuse, c'est la voiture individuelle.
À New York. Les commerçants, alors maintenant, en France, on fait une voie piétonne, tout le monde râle, les commerçants râlent, mais au début, en 1920, les commerçants sont furieux contre l'automobile parce qu'ils estiment que ça va détruire finalement leur commerce. Donc, l'automobile.
On ne le sait pas.
Donc, l'automobile s'est imposée, ça a été une expropriation de l'espace public, on a imposé une technologie dans l'espace public. Il y a une anecdote qui est assez intéressante. En Suisse, le canton des Grisons interdit en 1910 la voiture individuelle. Parce qu'il y a eu une série d'accidents. Et entre 1910 et 1928, vous savez, en Suisse, il y a une possibilité de faire des référendums d'initiative populaire. Alors là, c'est des référendums qui sont proposés par les autoclubs suisses, qui demandent à casser cette interdiction. Et par 10 fois, entre 1910 et 1928, les fiers habitants des cantons des Grisons refusent. Ils disent non, il faut interdire la voiture individuelle pour des bonnes raisons. Ça abîme les routes, c'est-à-dire qu'il faut payer des impôts pour maintenir les routes. Ça fait de la concurrence au chemin de fer. Le chemin de fer, c'est une compagnie nationale, donc ça veut dire qu'il faudra encore lever plus d'impôts. Donc voilà, l'automobile, ça a tout sauf été une sorte de coup de foudre. Ça a été au contraire des luttes et des oppositions pendant très longtemps.
Alors en vous écoutant, Jean-Baptiste Fressoz, on se rend compte que de faire l'histoire de l'Anthropocène, c'est faire de la politique. C'est politique. Tous ces choix-là sont politiques.
Le but du livre avec Christophe Bonneuil, c'était vraiment de repolitiser cette notion d'Anthropocène, qui était la chose la plus molle qu'on pouvait imaginer, parce que dans Anthropocène, il y a l'anthropos, c'est l'homme en grec en général.
L'âge de l'homme, c'est d'une... Ça voulait rien dire.
Ça veut rien dire, exactement. Et ce qu'on montre bien, c'est à quel point c'est en fait une toute petite partie de l'humanité qui a fait basculer la planète dans l'Anthropocène.
Et ce que vous montrez aussi, c'est que l'histoire de l'Anthropocène, c'est l'histoire de la production scientifique et politique d'une inconscience.
on crée des savoirs qui nous rassurent tout en sachant très bien qu'on n'a pas vraiment résolu le problème, on n'a fait que déplacer le problème.
C'est-à-dire que ça continue encore aujourd'hui,
ah, ça
vous le disiez.
Ça continue plein pot aujourd'hui. Regardez, je ne sais pas, par exemple sur la question du changement climatique, le nombre de dispositifs de désinhibition qu'on a créé pour se rassurer. Pensez déjà, par exemple, à tout le système des quotas carbone, des crédits carbone, faire payer la tonne de CO2, etc. Ça, c'était parfait pour pouvoir continuer comme avant, depuis entre 90 et 2010. Maintenant, ça vaut tellement rien la tonne de CO2 qu'on sait que ça n'a pas vraiment marché. Pensez à l'idée d'une économie circulaire. On va pouvoir tout recycler, donc pas de problème le plastique.
C'est
évidemment, il y a des pertes en ligne en permanence. Vous avez eu Baptiste Mont-Saint-Jean qui explique ça très très bien. L'idée qu'on va pouvoir recompenser nos voyages en avion. Mmh. Ça aussi, c'est une manière de se désinhiber, de se donner bonne conscience. Donc voilà, on est en plein dans la désinhibition actuellement. Oui, ça, j'en suis persuadé.
Et l'histoire de l'anthropocène, c'est l'histoire du capitalisme ?
Alors, il y a justement cette proposition de dire, on a proposé plein d'autres mots pour anthropocène, alors
capitalocène,
thanatocène, plein d'autres, phagocène, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Le capitalocène, c'est sans doute une meilleure proposition. Maintenant, il n'y a pas un facteur ultra dominant qui explique l'anthropocène. Par exemple, je pense que la guerre, qui n'est pas entièrement réductible à des questions de capitalisme, joue un rôle hyper important dans l'anthropocène, parce que c'est vraiment les technologies militaires qui la plupart du temps ensuite appliquées aux civils nous font basculer dans une autre ère à mon avis. Pensez aux pesticides, au départ c'est des gaz de combat. Pensez aux engrais, au départ ce sont des explosifs pour la Première Guerre mondiale. Pensez à l'avion. L'avion, avant d'être un moyen de transport, ça a d'abord été une arme. Pendant l'essentiel de son histoire, l'aviation, ça servit à bombarder les populations, pas à les transporter.
Les filets de pêche.
Les filets de pêche. Le nylon, c'est une technologie au début militaire. Les parachutes, etc. Donc on pourrait multiplier les exemples, c'est très facile. On voit à quel point la guerre, tout simplement parce que les militaires nous ont appris à tuer les humains, et ce faisant, ils nous ont appris à tuer le vivant en général. C'est ça en fait la logique de base, à mon avis, de l'anthropocène. C'est pour ça que le thanatocène, c'est un de mes chapitres préférés dans ce livre. Je pense que c'est vraiment une alternative qui serait assez intéressante. Le problème, une fois encore, c'est que
thanatocène, capitalocène, en tous les cas, c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Ça reste, non ?
Ça, c'est l'expression de Frederick Jameson. Hein. Effectivement, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, et on le voit très bien avec le jour d'après, d'ailleurs.
Ooh.
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Donc ça continue jusqu'à 15h avec vous, Jean-Baptiste Fressoz. On arrive dans la dernière partie de notre émission. Donc le 26 mai 2004, c'était votre journée particulière. Vous voyez ce film magnifique, américain, film catastrophe qui parlait de la fin du monde. Et figurez-vous que peut-être que Sacha Distel était déjà sur la même longueur d'onde que les films catastrophistes américains. Sacha Distel nous quittait en 2004 et son grand tube c'était...
Toute la pluie tombe sur moi. Oui, ben moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On peut penser plus acide, on peut penser à des tas de choses.
Oui, mais avec cet air-là, on a plutôt l'impression effectivement du déni et de la...
Vous voyez?
Ouais.
Hein, vous aussi, vous entendez le déni dans cette chanson?
Moi, j'entends déni, là, mais bon, je suis pas...
Vous êtes un peu obsédé.
Peut-être.
Vous êtes un peu dans votre sujet, quoi. Vous êtes... Jean-Baptiste Fressoz, plus sérieusement, en 2004, c'est une année de creux sur les questions environnementales. On est encore dans l'après 11 septembre. C'est la fin de la guerre en Irak. George Bush est réélu. On est préoccupé par le terrorisme et la sécurité intérieure. Et l'année 2004 est marquée par la révélation des photos de la prison d'Abu Ghraib. Vous vous en souvenez de ces photos qui révélaient que les soldats américains avaient humilié et torturé des détenus irakiens. C'est ça l'année 2004 pour vous aussi, dans votre esprit?
Complètement. Bah, on est obnubilé par la question de la guerre en Irak, du Moyen-Orient, du terrorisme. C'est pas du tout le climat ou les risques environnementaux, etc., qui sont présents. Et d'ailleurs, je pense que, enfin, le film reflète bien ça. C'est-à-dire que
le jour d'après.
Donc, ce film, il est inspiré d'un rapport qui est fait par Peter Schwartz et Doug Randall, qui sont deux futurologues qui travaillent pour le Pentagone. Ils ont écrit un scénario qui s'appelle Scénario pour un changement climatique abrupt. L'idée qu'il y aurait des points de bascule. D'un seul coup, le système climatique change et ça pourrait produire un effondrement d'un pays comme les États-Unis. Et donc, le changement climatique est tout de suite récupéré en termes de sécurité nationale.
Et sécurité intérieure.
Sécurité intérieure. C'est ça que je trouve assez frappant. On voit bien dans ce film, d'ailleurs, c'est une question de migration, etc. Il y a un côté très moralisateur avec l'idée que l'effondrement, ça va être les pays riches. Donc, c'est ceux qui ont fauté qui vont être punis. On est encore dans ce discours-là avec le discours de l'effondrement et de la collapsologie. C'est, évidemment, c'est les pays riches qui ont fauté, mais qui vont bien mieux résister aux questions de changement climatique que les pays pauvres. C'est ça qui est dramatique. Mais le point important, c'est que vraiment, on est dans un contexte où la sécurité nationale est le thème dominant et à quel point la question écologique et changement climatique est complètement absorbée, phagocytée même par ce thème-là. Et je dirais qu'à la fois, avec le discours de l'effondrement actuel, on reste, à mon avis, dans ce discours de sécurité, sécuritaire. Et si vous prenez, par exemple, l'intervention toute récente cette semaine de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui, pour accompagner l'offensive de Macron sur l'immigration, explique que on sait que dans le futur, il va y avoir du changement climatique et donc il y aura des vagues de migration. Et donc, il faut que, je cite, la France soit armée pour faire face à cela. Armée, on voit bien à quel point le changement climatique est tout de suite réinterprété dans le discours sécuritaire, anti-immigration, et à quel point ça peut nourrir finalement des politiques de droite assez classiques, quoi. Donc ça, je trouve que l'importance de la décennie 2000, du terrorisme, de la question sécuritaire, dans le cadrage de la question environnementale, c'est quelque chose d'intéressant et d'important. C'est pour ça que ce film aussi de Le jour d'après est intéressant.
La Terre. Ce mélange émouvant du passé des trois règnes, tout traversé, tout infiltré, tout cheminé d'ailleurs de leurs germes et racines, de leur présence vivante, c'est la terre. Ce hachis, ce pâté de la chair des trois règnes. Passé non comme souvenir ou idée, mais comme matière. Matière à la portée de tous, du moindre bébé, qu'on peut saisir par poignée, par pelleter. Si parler ainsi de la terre fait de moi un poète mineur ou terrassier, je veux l'être. Je ne connais pas de plus grand sujet.
Jean-Baptiste Fressoz, pour terminer cette émission, Francis Ponge, vous êtes un chercheur terrassier, vous ?
L'expression est magnifique, en tout cas, un poète terrassier. Et je dirais que pour les historiens, la Terre, c'est vraiment important. Pour les historiens de l'environnement, évidemment, la Terre, c'est crucial, c'est central. C'était aussi un immense sujet de débat tout au long du 19e siècle, avec une énorme inquiétude liée à l'épuisement des sols. Et là, on a un bel exemple de désinhibition aussi, parce que on est donc tout au long du XIXe siècle à cette vision chimique du sol où chaque récolte extrait une part des nutriments et donc on va aboutir inexorablement à une baisse de fertilité et donc à des famines, à des révoltes. On a une vision très négative du futur, avec Liebig en particulier, un grand chimiste allemand qui étudie la chimie des plantes. Et puis arriveront les engrais chimiques. Et là, on a une sorte de solution technologique à un énorme problème environnemental. Mais évidemment, les engrais chimiques ne font que déplacer le problème, puisqu'ils sont très énergivores, ils posent tout un tas d'autres problèmes pour les plantes, etc., pour la fertilité des sols. Et donc, on voit bien comment la technologie nous désinhibe, mais ne fait que déplacer les problèmes. Et on pourrait dire, d'une certaine manière, avec la question du changement climatique, vu que cette semaine, il y a encore eu un rapport qui explique que ce serait peut-être plus 7 degrés ouais. qu'on aurait en France à l'horizon 2100, et que a priori, on va pas réussir à réduire les gaz à effet de serre à temps, hein, parce qu'on est sur des systèmes industriels, de transport, qui ont une telle inertie qu'une idée d'une transition rapide est sans doute illusoire. Ce qui va arriver très vite dans le débat, on verra sans doute dans les décennies futures, c'est la géo-ingénierie. C'est-à-dire des propositions technologiques assez démentielles qui consistent à envoyer dans la haute atmosphère des particules chimiques qui réfléchissent une partie de l'énergie solaire dans l'espace. Et là, on voit bien à quel point on fait que déplacer les problèmes.
Pourquoi faire ?
Pour éviter les pires effets du réchauffement climatique. Alors, il y a énormément de problèmes et cette promesse-là est très dangereuse parce que ça fait croire qu'il y a un plan B, en fait.
Il
n'y a pas de plan B, en vérité.
Alors, comment on va vivre à l'Anthropocène ? Comment on va survivre à l'Anthropocène ?
Alors, je pense que déjà, il faut arrêter de parler du « on », c'est-à-dire que l'Anthropocène, il y a déjà des victimes de l'Anthropocène, et que c'est pas dans les pays riches qu'elles se trouvent, globalement, généralement. Moi, ce qui m'inquiète, quand je vois, par exemple, la déclaration de Sibeth Ndiaye, c'est plutôt un effondrement moral, politique, éthique, avant un effondrement économique et environnemental. À mon avis, le premier problème, c'est déjà de préserver les valeurs de base. Et par exemple, la question...
Qui sont les valeurs de base ?
L'accueil, l'égalité au niveau planétaire. Il faut bien voir que la question du changement climatique, c'est d'abord une accentuation des inégalités. C'est plus une sorte d'apartheid climatique qu'un effondrement. Parce que l'effondrement, ça a un côté un peu moralisateur. On va tous y passer, on va tous être concernés.
C'est le
scénario catastrophe, assez hollywoodien, en fait. Ouais. Et en fait, c'est pas ça qui va se passer. C'est plutôt un approfondissement des inégalités avec les riches, des pays riches qui vont relativement peu souffrir, en tout cas, même à moyen et long terme, de cette question du changement climatique. Donc, à mon avis, l'enjeu va d'abord être de résorber ces risques d'apartheid climatique.
Merci. Jean-Baptiste Fressoz, d'avoir passé cette heure avec nous. Votre livre, alors, L'événement Anthropocène est publié au Point Seuil. Le film L'homme a mangé la terre, donc extraordinaire film que je recommande, est disponible jusqu'à la fin du mois de septembre sur Arte plus 7. Et vous trouverez bien sûr toutes les références de vos livres et le lien vers le film sur le site de l'émission. Voilà. C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combes, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka, Alina Véronique de Saint-Pastou et à la technique aujourd'hui Clément Berman. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission et surtout la podcaster. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, après le flash, ce sera bien sûr Vincent Josse et son grand atelier.